Camille Allary. Vente après décès. Ce matin, l'annonce, publiée par les grands journaux, de la mise en vente de la collection d'aquarelles ayant appartenu au comte Arlot, ce boyard ennuyé, dont le tout Paris des premières a connu les fastueuses élégances, m'a fait prendre le chemin de l'hôtel Drouot. Malgré la pluie persistante qui, depuis 5 heures, hachait le brouillard, il y avait là-bas beaucoup de curieux et d'amateurs. Pour arriver à la salle D, où, au dire de l'avis imprimé que 2 huissiers distribuaient à la porte, la collection était exposée, il me fallut traverser un large couloir encombré, de chaque côté, de meubles de toute provenance. Les lits, les bahuts, les consoles, les fauteuils confondaient leurs angles dans un désordre trop plein d'abandon pour être étudié. Ici, très élevée sur son socle, une coupe de bronze du temps de Benvenuto, représentant un lotus épanoui au bout de sa tige, avait été placée sur un affreux canapé en noyer, un canapé rococo et bourgeois, recouvert en velours grenat. Là, un mobilier de boudoir, style Louis XV, garni d'une étoffe grise semée de roses, avec des incrustations d'or et des filets bleus, se voyait parqué entre une demi-douzaine de vulgaires armoires à glace. Et, tout au fond, presque contre le mur, au-dessous de la grille, qui a pour mission de tenir le public à une distance respectueuse des objets exposés, un vieux casque de dragon, bosselé, couvert d'une lèpre de vert-de-gris, profané de son contact, la courte pointe de satin d'un merveilleux lit en bois d'ébène, un lit royal à colonne torse, haut comme un trône, dont la vue seule évoquait des souvenirs de courtisanes pâlies par le plaisir, ivres de vin et d'amour, rugissant, les membres tordus, dans le mystère de ces épais rideaux, sous lesquels un faible parfum d'ambre flottait encore. Tout entier à mes combinaisons d'enchères, j'allais gravir les premières marches de l'escalier en colimaçon qui conduit à la salle D, lorsqu'en me détournant pour éviter la traîne d'une passante, je lus sur un écriteau, placé au-dessous de la chaire d'un de messieurs les commissaires priseurs, « Vente après décès de la garde-robe et des objets d'art ayant appartenu à Abel Valnet, ex-premier sujet de l'Odéon. » La curiosité me fit rebrousser chemin. Je vins renforcer les rangs des flâneurs qui entouraient la chaire. Il y avait un peu de tout dans ces groupes. L'homme du monde venu, comme moi, avec l'espoir d'une emplette, y coudoyait la chanteuse de caboulot. Le marchand de bric-à-brac, en casquette de soie, y bousculait le collectionneur novice qui, 9 fois sur 10, paie 50 louis, une croûte donnée pour authentique, à grands coups de marteau d'ivoire. Le boursier en détresse lorgnait la fille de joie, accouru avec la certitude que sa présence donnerait à quelques journalistes à court de copie l'idée de parler de ses toilettes dans son article du lendemain. Ce petit monde jasait, criait, riait, pendant que l'aboyeur, immobile auprès de l'expert, annonçait de sa voix de stentor « Au tour de l'épée maintenant !»« Messieurs, vous pouvez vous assurer par vous-même que c'est bien celle que Valnet portait au flanc quand il jouait Hernani. » Ne craignez pas d'examiner attentivement l'arme rustique et simple du fougueux amant de Donia Sol. Regardez, faites circuler, rien ne nous presse. Lame damasquinée, poignée d'acier sans ornement ni dorure. À 20 francs, l'épée d'Hernani. À 20 francs, une fois, deux fois. Voyons, messieurs, un peu de courage. Aucun de vous n'a la prétention de devenir propriétaire d'un objet d'art de la valeur de celui-ci pour 20 francs. 25 francs. 26. 26 francs. Une fois, deux fois, trois fois. Il n'y a pas d'enchérisseur. Adjugez à monsieur. Et le front luisant de sueur, les lèvres humides, il fouillait avec une sorte de volupté sauvage dans les guenilles aux couleurs variées entassées devant lui et en tirait successivement le manteau percé à jour de Don César de Bazan, le camail et la robe de pourpre de Mazarin, le haut de chausse de Gringoire, la toque de velours de Perdican, puis l'écharpe tricolore du conventionnel Humbert, ce farouche lion que les provocantes chatteries de Madame Tallien faisaient pâlir mieux que les balles des chouans. Réunis en un seul lot, les couronnes, derniers vestiges des soirées glorieuses, furent vendues 5 francs. Pauvre Abel, soupira près de moi une belle petite, blonde, aux yeux rêveurs. Quelle triste fin! Le connaissais-tu? Lui demanda familièrement un jeune homme que ses allures, son vêtement défraîchi, me firent prendre pour un reporter. Oui, depuis environ 3 ans. J'avais eu un caprice pour lui, une toquade, ce serait trop long à raconter. À cette époque, j'étais loin de penser que l'aimable garçon, auquel la Russie offrait des cachets de 1500 francs par soirée, qui jetait leur à pleine main sans compter jamais, mourait plus tard, aveugle, misérable, oublié, dans une chambrette de la maison du bois. Des centaines de 1000 francs dépensés ainsi sans raison, un talent merveilleux, gaspillé avant l'heure de sa floraison complète, cela me semble un rêve. À t'entendre, on dirait qu'il y a encore un peu d'amour sous la cendre de tes regrets. Sur ce sujet, mon cher, je ne permettrai jamais la blague, sais-tu? L'ai-je aimé véritablement? N'est-ce qu'une fantaisie que j'ai voulu me passer? Je ne saurais le dire. Au fait, tu as eu des passions si nombreuses et si riches en contrastes que, dans le tas, il t'est permis de confondre. Mauvaise langue! Toujours est-il que je ne pouvais me défendre de lui être sincèrement attaché. Lorsque le spectacle terminé, nous quittions le théâtre bras-dessus, bras-dessous, après ces soirées qui étaient autant d'ovations enthousiastes, je me sentais heureuse et fière. Je me figurais qu'il me revenait une part de ses triomphes. Un soir même, c'était à la première représentation de la Conjuration d'Amboise, ma joie fut si vive que je m'évanouis à la fin de la pièce pendant que le public, après l'avoir appelé 4 ou 5 fois, faisait pleuvoir à ses pieds un déluge de fleurs. Nous nous séparâmes, je ne sais plus à quel propos. Nous restâmes longtemps sans nous revoir. La vie est tellement compliquée. Au fond, cet admirable artiste n'était qu'un grand enfant, sensible et nerveux à l'excès. Tout le secret de sa force était là. Vivant dans un monde qui n'a rien de commun avec celui que je fréquentais jadis, je l'avais complètement perdu de vue. C'est par hasard, en parcourant un journal, que j'ai appris du même coup et sa mort et la mise en vente de ses bibelots. Vois-tu, je devine un drame atroce sous l'écroulement de cette renommée d'Aidière. Comme il a dû souffrir, comme il a dû se ronger les poings pendant cette longue agonie de 6 mois. Quel dommage que ce fou, égaré dans un siècle méthodiste, n'ait pas eu une main amie pour guider ses pas, pour couper par un peu de raison l'ivresse étourdissante de ses premiers succès. Tu es décidément une brave petite femme, s'écria spontanément le jeune homme en pressant entre les siennes les mains gantées de sa compagne. Que veux-tu? Répliqua-t-elle avec une gravité touchante. J'ai beau être ce que je suis, l'être aimant qui gît en moi vit, souffre et espère malgré tout. Le cœur a survécu au naufrage du corps. C'est peut-être le châtiment de celles qui, comme moi, traînent sur leurs talons tout un passé de honte et d'infamie. Tandis qu'indifférent, en apparence, j'écoutais cette conversation, les nippes d'Othello avaient été vendues à grand-peine. La séance allait être clôturée. Le portrait du fougueux artiste, une merveille dessinée aux 3 crayons par Carolus Durand, ne trouva pas d'acquéreur. Les amateurs, très clairsemés depuis un quart d'heure, s'étaient presque tous éclipsés. La vente ne produisit que 860 francs. Faible compensation pour la meute insatiable des créanciers du regretté défunt. « Quel sinistre épilogue !» me disais-je, navré, en regagnant ma demeure. Pourquoi cette constellation radieuse du ciel parisien est-elle si brusquement descendue sous l'horizon? Pourtant, cet homme a été l'instrument docile du génie. La parole des poètes, passant par sa bouche, résonnait comme un air chanté au creux d'un vallon et parvenait, plus mélodieuse ou plus vibrante, à l'oreille des foules. Il a passionné, il a ému, il a créé. On l'a imité sans réussir à l'égaler jamais. Jeunesse, chaleur, passion, il réunissait tout. Des cœurs de femmes battaient pour lui, les jeunes filles n'avaient pas assez de sourires à lui offrir, elles retrouvaient son profil sévère à travers la gaze lumineuse de leurs rêves. Les hommes l'enviaient, on lui tressait des couronnes de feuilles de chêne entremêlées d'épis d'or. On se ruait pour le voir, pour l'entendre. Chaque soir, la tempête des applaudissements faisait vaciller le théâtre sur ses bases, et le lendemain de ses batailles, son nom, doux comme un bruit de baiser, s'envolant de boudoir en boudoir, voltigeait sur des lèvres frémissantes de duchesse. À cette heure, que reste-t-il de cette réputation, hier encore si vivante? Presque rien. À peine un souvenir indécis qui, demain, pareil à ces bulles de savon formées par un souffle et qu'un souffle fait éclater, sera évanoui. Voilà bien la gloire artistique, du bruit, de l'ivresse, des fleurs, puis la mort arrive, fauchant à tour de bras toutes les espérances qu'elle rencontre durant sa course au milieu des siècles. D'autres événements surviennent, de grands bouleversements se produisent, et peu à peu, l'étoile sacrée que la popularité met au front de ses élus s'éteint, se change en une pincée de poussière que le courant de l'humanité éparpille aux quatre vents du ciel. Tout en marchant, l'esprit occupé par ces choses, je songeais au père Frédel, dit le Rouge, madré paysan, dont les terres confinent l'asile sauvage et retiré, construit entre deux coteaux élevés, près d'une rigole coulant entre des cailloux et des arbres, comme dit Jean-Jacques, où, sitôt que le printemps est revenu, je vais entendre les sérénades de mes rossignols. Quel singulier personnage que ce bonhomme! Il passe pour être l'un des propriétaires les plus fortement imposés du pays. C'est la personnification de l'avarice sordide. Il ne se nourrit que d'herbage, ne boit que de l'eau, est constamment vêtu de haillons et marche sans souliers. Été comme hiver, son couffin de sparterie sur l'épaule, malgré la chaleur dévorante du soleil, malgré la neige, malgré la terre durcie, malgré la bise aiguë, il s'en va par les grandes routes à la recherche du fumier oublié qui doit engraisser ses oliviers. Explique qui voudra cette bizarrerie et cette manière de vivre qui a changé cet homme en brute. Le père Frédel n'a ni parents ni amis. Il vit seul depuis des années et se prive de tout. Sa chienne, une pauvre bête qui fait peine à voir, est son unique confidente. Quelques-uns de mes voisins prétendent qu'il possède une soixantaine de mille francs en vignes ou en prairies. Le reste de sa fortune est en louis d'or qu'il sert, dit-on, dans un vieux bas de laine qu'il cache sous les sarments qui lui servent de lit. Et, en rapprochant de cette existence bestiale, la vie fiévreuse de l'artiste dont je venais de voir vendre la dépouille, je pensais « De ces deux êtres, lequel est le plus sage, lequel est le plus fou ?» Lorsque j'atteignis le jardin du Luxembourg, la pluie avait cessé. Le vent, qui, las de souffler du même côté, se levait du sud, amoncelait les nuages vers les hauteurs de Passy. Des vapeurs roses couraient dans le ciel diaphane. En dessous, le soleil développait ses rayons, pareils aux branches d'or d'un immense éventail renversé. Les brises légères m'apportaient par bouffées les jeunes senteurs des lilas, et les pierrots, qui sautillaient aux fêtes des marronniers, faisaient tomber de chaque branche des perles liquides qui crépitaient en s'écrasant, entre les massifs de rhododendrons, sur le sable jaune des allées.